VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 7 octobre 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Les États-Unis expriment leurs préoccupations en réaction à la décision du Congo-Brazzaville de tenir un référendum sur une nouvelle constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat de Denis Sassou Nguesso.
En Guinée, l'opposition assure qu'elle ne boycottera pas la présidentielle du 11 octobre malgré ses plaintes actuelles sur le processus électoral.
En Côte d'Ivoire, le candidat Amara Essi, qui se plaint de mascarade électorale, a suspendu sa participation à la présidentielle du 25 octobre.
En République centrafricaine, fin aujourd'hui du deuil national de 3 jours décrété par la présidente Samba Panza en hommage à la mémoire des victimes de la récente flambée de violence.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme insiste sur la nécessité en Europe de protéger les droits de tous les migrants.
Nous aurons sur place en Italie notre envoyé spécial Nicolas Pineau qui couvre pour nous la crise migratoire en Europe. Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis notent avec préoccupation la décision du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de tenir un référendum sur une nouvelle constitution qui éliminerait la limitation actuelle des mandats et lui permettrait de se représenter à la fin de son mandat en 2016. C'est ce qui ressort d'un communiqué de Mark Turner, un porte-parole du département d'État. M. Turner a rappelé que le président Barack Obama avait souligné devant l'Union africaine que Nelson Mandela et George Washington avaient forgé un legs durable, non seulement à cause de ce qu'ils ont fait au pouvoir, mais aussi parce qu'ils étaient prêts à quitter le pouvoir et à transférer pacifiquement le pouvoir. Et M. Obama avait ajouté, a dit le porte-parole américain, que lorsqu'un leader tente de changer les règles du jeu en milieu de jeu, tout simplement pour se maintenir au pouvoir, cela risque l'instabilité et des troubles, comme nous l'avons vu au Burundi.
Au Burkina Faso, la justice a inculpé mardi le cerveau du coup d'État du 17 septembre, le général Gilbert Diendéré, ainsi que l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé, pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils font face à 11 chefs d'accusation. Le même jour, le gouvernement de transition donnait des preuves du désarmement du régiment de sécurité présidentielle. Le journaliste Issaka Lingani suit le processus.
C'est une procédure tout à fait normale qui correspond à ce qui avait été annoncé par les autorités et à l'engagement pris par les deux personnalités elles-mêmes, à savoir se mettre à disposition de la justice de ce pays pour rendre compte de leurs actions dans le coup d'État qui a eu lieu et dont on les accuse d'être responsables. Maintenant, il faut attendre de voir comment les enquêtes seront menées et espérer que cela va se dérouler dans la transparence afin que, une fois pour toutes, nous sachions ce qui s'est passé exactement et que chacun réponde de ses actes.
Est-ce qu'ils pourront vraiment bénéficier d'une justice impartiale au Burkina?
Bon, je ne sais pas ce que l'ex-majorité pense, mais moi, en tant qu'analyste politique, en tant qu'observateur de la situation nationale, je me dis qu'il y a des chances, effectivement, que nous allons vers un procès équitable.
Est-ce que c'est la fin du CDP comme mouvement politique au Burkina?
Je ne crois pas du tout. Je ne crois absolument pas du tout que ce soit la fin du CDP. On ne peut pas, au détour d'un procès, tuer toute une idée. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est quand même 27 ans de constitution, d'unification, d'une ambition, d'une volonté de vivre ensemble, etc. Ça ne s'efface pas au détour d'un procès futile de généraux.
Issaka Lingani, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Opinion à Ouagadougou.
En Guinée, l'opposition a affirmé mardi à Conakry qu'elle ne boycottera pas le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre. Elle a cependant appelé à corriger des dysfonctionnements importants et des anomalies dans le processus qui risquent d'entacher le scrutin. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Aliou Kondé, un responsable du parti de Sélouda Alène Diallo, chef de file de l'opposition et candidat à la présidentielle. Aliou Kondé a précisé s'exprimer au nom des représentants des 7 candidats à l'IS contre le président Alpha Condé, élu en 2010 et qui brigue un second mandat. Selon un journaliste de l'AFP, les représentants de 6 des 7 candidats étaient présents à la conférence de presse.
En Côte d'Ivoire, à moins de 3 semaines de la présidentielle, le candidat Amara Essi a annoncé mardi la suspension de sa participation au scrutin du 25 octobre pour ne pas, a-t-il dit, se rendre complice d'une mascarade électorale. L'ancien ministre des Affaires étrangères estime, selon l'AFP, que ce scrutin ne s'annonce ni ouvert ni régulier. Le président sortant, Alassane Ouattara, fait figure de grand favori pour ce scrutin, jugé crucial pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2010-2011, épilogue sanglant d'une décennie de tensions politico-militaires.
En République centrafricaine, c'est aujourd'hui que prend fin le deuil national de 3 jours décrété par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, en hommage à la mémoire des victimes de la récente flambée de violence. Un bilan officiel fait état de 61 morts et 300 blessés. En dépit d'un retour graduel à la normale, la situation humanitaire reste préoccupante à Bangui, comme nous le dit le révérend père Anissé Senganbi, curé de la paroisse Saint-Charles-Louanga de Bégoua.
Depuis le 26, jusque maintenant, aucun humanitaire n'a mis pied ici parce que la situation sécuritaire n'est pas de mise. En ce sens qu'ils ont peur d'être coincés ou de se faire braquer par rapport à leurs véhicules.
L'Organisation des Nations Unies se plaignait récemment du fait que les ONG n'avaient pas totalement accès aux gens qui sont vraiment nécessiteux à Bangui à cause de la situation sécuritaire.
Les gens peuvent librement circuler maintenant et venir vers moi ici. Mais ils éprouvent encore une sorte de peur, ne sachant pas ce qu'ils pourraient les attendre en traversant le 4e, quoi. Mais la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est vers PK5, je ne sais pas.
Visiblement, on va vers un report des élections.
C'est dommage, mais c'est possible. Je ne crois pas tenir les élections avec des groupes qui détiennent encore des armes. Vous allez leur dire quoi? Vous allez faire campagne librement comment? C'est ça ma question. Est-ce que franchement les Nations Unies ont bien réfléchi pour prendre de telles décisions?
C'était le père Anissé Senganbi, joint à Bangui.
Au Soudan du Sud, les rebelles mettent en garde contre un découpage devant faire passer le pays de 10 à 28 États. Le point avec Eddie Isongo.
Les décrets signés vendredi par les présidents Salva Kiir comportent un risque de retour à la guerre, préviennent les rebelles. L'objectif de cette décision unilatérale est d'exacerber les sentiments tribaux des peuples du Sud-Soudan pour qu'il y ait un retour à la guerre, indique un porte-parole des rebelles, Mabior Garank, cité par l'AFP. Selon les rebelles, ces décrets mettent en péril l'accord de paix signé le 26 août après plusieurs mois d'atermoiement des protagonistes de la crise sud-soudanaise. Les gouvernements voient en croire les décrets du président Kiir dans la création des nouveaux États, un moyen de décentraliser les pouvoirs, surtout dans les États d'unité, du Haut-Nil et des Jonglei qui doivent être divisés en 10 petits États. L'unité, les Haut-Nil et Jonglei constituent en fait les principaux champs de bataille du conflit. Les décrets du président Kiir va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord de paix préviennent aussi dans un communiqué conjoint la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et les commissaires européens aux affaires humanitaires Christos Stylianides.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le général John Campbell a reconnu que les forces américaines étaient responsables du bombardement par erreur de l'hôpital de Médecins sans frontières samedi à Kunduz, en Afghanistan. Bombardement qui a coûté la vie à 22 personnes. Le général Campbell déposé devant une commission parlementaire pendant que se poursuivent les enquêtes américaines et afghanes. Selon lui, les forces afghanes avaient demandé ce raid à cause des tirs d'insurgés talibans provenant de l'installation. Mais la décision de bombarder a été prise par la chaîne de commandement américaine. Nous ne ciblerons jamais intentionnellement une installation médicale, a assuré le général Campbell. Médecins sans frontières, qui a parlé de crimes de guerre, a exigé une enquête indépendante.
Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, s'interroge sur l'avenir des relations entre Ankara et Moscou à la suite des informations sur plusieurs violations de l'espace aérien turc par des avions russes près de la frontière avec la Syrie. « Il y a des mesures que nous ne voulons pas prendre », a-t-il déclaré hier lors d'une conférence de presse à Bruxelles en compagnie du Premier ministre belge.
Le groupe État islamique a revendiqué une série d'attaques meurtrières à Aden au Yémen contre des QG gouvernementaux et des positions de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Dans une déclaration sur Internet, les djihadistes disent avoir perpétré 4 attentats suicides contre ses cibles, contredisant ainsi les officiels qui parlaient de roquettes tirées par les rebelles chiites houthis, appuyés par l'Iran.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a appelé les États membres de l'Union européenne à veiller à ce que toutes les discussions sur la politique de migration se fondent sur la nécessité de protéger les droits humains de tous les migrants. Chérubin Dorsil.
Prenant la parole avant la réunion de mai 8 octobre du Conseil européen pour la justice et les affaires intérieures, Zaid Raad al-Hussein a exprimé des préoccupations particulières au sujet de l'approche actuelle qui concentre l'attention sur les soi-disant points chauds. Le HCDH se félicite des efforts de l'UE pour offrir un soutien aux États membres de première ligne qui reçoivent un grand nombre de migrants. Mais les États doivent veiller à ce que ces points chauds ne deviennent pas, en effet, des centres de détention sans le nom, a poursuivi le haut-commissaire. L'Italie et la Grèce ont tous deux réduit l'utilisation de la détention comme moyen de lutte contre cette vague d'immigration illégale. L'Italie sera le premier pays à commencer la relocalisation des réfugiés vendredi, un groupe d'Érythréens. Entre-temps, l'Union européenne a déclaré qu'elle a convenu avec la Turquie d'intensifier la coopération pour la réinstallation des réfugiés et des migrants fuyant les zones de conflit au Moyen-Orient. Parallèlement, Ankara établira sur une base prioritaire 6 nouveaux centres d'accueil de réfugiés, partiellement financés par l'Union européenne.
Et maintenant, la Minute Écho avec Chérubin Dorsil.
Les autorités ivoiriennes ont annoncé mardi avoir lancé les travaux d'extension du port autonome d'Abidjan, le plus important d'Afrique de l'Ouest, avec la construction d'un deuxième terminal capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines. Ces travaux d'un coût global de 560 milliards de francs CFA, environ 854 millions d'euros, devront permettre l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi, terminé en 1950, la modernisation des quais et la construction du deuxième terminal, a déclaré à Abidjan le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, lors d'une cérémonie hier. En Afrique du Sud, le moral des patrons est à son plus bas depuis 1993, alors que l'économie du pays accuse le coup de la chute du rand et du cours des matières premières, selon un sondage publié mardi. Selon une enquête mensuelle de la Chambre sud-africaine de commerce et d'industrie, le climat financier reste tendu, comparé à l'an dernier, à cause de l'instabilité de la monnaie nationale et des matières premières. On n'en parle pas souvent, mais les produits halal, allant des produits ne contenant pas de porc ou d'alcool aux services financiers et touristiques, deviennent de plus en plus nombreux sur le marché. Et la tendance devrait continuer, selon le président du Conseil islamique des États-Unis pour l'alimentation et la nutrition. Le halal a désormais une dimension mondiale. Nous nous adressons à 1,8 milliard de consommateurs, a indiqué Mohamed Choudhry, ajoutant que le nombre de musulmans pourrait atteindre 2,4 milliards en 2030.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. La dépression et l'anxiété s'invitent dans le football.
Malgré le spectacle qu'offre cette discipline, mais aussi l'argent que font nos stars du ballon rond, la dépression et l'anxiété sont les troubles psychologiques qui touchent plus d'un tiers des footballeurs selon le syndicat mondial des joueurs.
Et c'est une enquête qui révèle ce mal.
Ah oui, l'étude a été commanditée par la FIPRO, c'est le syndicat mondial des joueurs. Et 38% des 607 joueurs en exercice et 35% des anciens joueurs interrogés présentaient des syndromes de dépression et anxiété. Et ces troubles ont déjà fait une victime, comme le suicide du gardien allemand Robert Enke en novembre 2009.
Alors, à quoi va servir cette étude ?
Favoriser la prise de conscience, l'engagement des décideurs du football pour prendre des mesures appropriées, surtout le soutien effectif aux joueurs qui présentent des troubles psychologiques. Et en Nouvelle-Zélande, par exemple, le syndicat des joueurs et professionnels et la Fédération nationale n'ont pas tardé à créer un programme pour évaluer la santé psychologique des joueurs dans le pays. C'est bien sûr en réponse à ce trouble fait.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'association des blogueurs a mis en place une plateforme visant à garantir la transparence dans la proclamation des résultats le jour des élections, mais aussi prévenir les violences post-électorales. Joint à Conakry, Fodé Kouyaté, président de cette association qui s'occupe également du monitoring électoral, déclare que la CENI n'inspire plus confiance à tous les acteurs en place.
Pour ma part, j'estime que pas totalement suivi dans la mesure où il y a déjà des prises de position, il y a déjà des critiques par rapport à l'application de cet accord. Donc il y a déjà des menaces par rapport au boycott de l'élection à venir. Donc ce qui veut dire que l'enjeu fondamental qui est le fichier électoral, qui est la capacité de la CENI à assurer la crédibilité, la transparence du processus électoral, n'a pas encore convaincu tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral. Donc le constat de l'environnement actuel, c'est que les différents acteurs au processus ne se font pas confiance.
Qu'en est-il de la proportion des moyens utilisés par les différents candidats pour garantir un scrutin équitable?
Quelqu'un qui circule simplement dans la ville de Conakry est frappé d'abord par l'omniprésence du parti au pouvoir sur les affiches. Donc en termes de moyens, tout le monde sait aujourd'hui que le parti au pouvoir a plus investi que les partis de l'opposition. Il y a un déséquilibre total.
Vous parlez d'Alpha Condé?
Évidemment, du parti au pouvoir de Alpha Condé, le RPG.
Est-ce que ça a des conséquences sur l'équité du scrutin?
Bien évidemment, c'est un aspect très important du processus électoral. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Qu'est-ce qu'il a fait dans la différence? Il y a quelques années, le RPG, bien que c'est un grand parti, c'était toujours un grand parti, mais ils n'ont pas eu autant de moyens pour mener une telle campagne. Quelque part, les fonds publics ont servi à mobiliser ou à faire de la campagne. C'est vrai, il y a des responsables politiques, des cadres de l'État qui, pour garder certaines positions ou à leur niveau, qui sont des responsables d'entreprises qui investissent pour le parti.
Et qu'en est-il du dispositif de transparence pour assurer la proclamation des résultats?
En tant qu'association des blogueurs de Guinée, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle Guinée Vote, qui est une plateforme citoyenne de veille des élections. D'abord, servir de médias, faciliter l'accès à l'information à tout le monde, de partout, que ça vienne des médias ou que ça vienne des citoyens. Il y a aussi notre rôle, nous allons déployer 215 observateurs à travers le pays qui vont renseigner une plateforme technique sur la plateforme de guinevote.com et qui va permettre de signaler des incidents, d'alerter pour permettre de garantir un processus électoral, un scrutin transparent pour qu'il n'y ait pas de manipulation quand les résultats sont donnés. On prône également qu'on sensibilise pour qu'après la proclamation des résultats, il n'y ait pas de violence.
C'était Fodé Kouyaté, joint à Conakry par Eric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. L'ambiance est tendue dans le pays après des affrontements meurtriers le week-end dernier à Nzéré Coré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Seydou d'Alain Diallo. Que faire pour consolider la démocratie 5 ans après les premières élections libres en 2010? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Burkina Faso, le dernier acte marquant la fin du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, a été signé hier par le Premier ministre Isaac Yacouba Zida, en présence des chefs d'état-major des armées de la CDAO. Il s'agissait de la présentation publique d'un échantillon d'armes que possédait l'ex-RSP. L'unité d'élite a été finalement dissoute suite à l'échec du coup d'état du général Gilbert Diendéré. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou Zoumana Wonogo.
Vous avez les armes antiterroristes Uzi, vous avez les MP5 de 9 mm, les armes anti-char et les armes à tir court. Vous avez les Kalash M et les Kalash standard tireurs d'élite et les armes à pompe. Ici, vous avez composition des lance-grenades de 40 mm
et les lance-roquettes de 40 mm aussi.
Si les armes vont rejoindre les magasins de l'armée régulière du Faso, quel sort est réservé aux éléments du RSP? Suivons la réponse du Premier ministre Yacouba Isaac Zida.
Les militaires de l'ex-RSP ont été affectés dans d'autres garnisons et ont tous ou presque déjà rejoint leur corps. Leur intégration a donc commencé et des instructions ont été données à toutes les unités et aux populations qui les reçoivent afin qu'elles les accueillent en toute fraternité. Sur le plan judiciaire, pour permettre d'agir dans la transparence, le gouvernement a mis en place une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les événements. Ceux qui ont planifié et exécuté ce coup d'État répondront de leurs actes devant la justice. Ainsi donc se tourne une page douloureuse de notre histoire.
Quand le maître de cérémonie a annoncé la visite des armes du RSP, ce fut la ruée vers les véhicules estampillés RSP par ces nombreux jeunes qui, il y a seulement quelques jours, avaient une peur bleue du RSP.
Ah, en tout cas, moi je pensais pas, je pouvais même pas penser à ça. Ce que moi je peux souhaiter, c'est vivre l'armée.
On avait trop peur, on savait même pas qu'un jour, on pouvait s'approcher même du véhicule de RSP, on savait même pas. Tellement si on voyait de 1 km, on fouillait.
Moi personnellement, je me sens, c'est comme si j'ai des ailes, oui, et je sens que le Burkina est devenu nouveau.
Le doyen du corps diplomatique accrédité au Burkina, l'ambassadeur du Tchad, venu pour le constat de fin de désarmement, nous a confié ceci. On écoute l'ambassadeur Mbatna Badjang.
C'est un constat d'une réussite de l'action des forces armées burkinabées. Mais je voudrais, au-delà de ça, souligner quelque chose qui m'a particulièrement marqué. C'est le professionnalisme avec lequel la hiérarchie militaire a conduit ce processus. Ce qui s'est passé avant, c'était plutôt une entorse. Je crois que c'est une fin heureuse.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
À Gao, au Mali, le mouvement Campus 15 a organisé une marche de protestation contre son exclusion du comité de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Au micro de Dili Diko, Madame Fatih Soumeilou, coordinatrice du mouvement.
La Campus 15 a été créée le 12 août 2015 parce que des malentendements et de malcompréhensions entre les mouvements. C'est la raison de la création de la Campus. La Campus 15, c'est la coordination des mouvements d'autodéfense prônant l'inclusivité des signataires des accords.
Dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez en ce moment?
La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça n'allait pas entre nous et les autres, et puis la médiation. C'est la raison qui nous a fait et que les autres mouvements, c'est qu'on fait, voyez, inclus des positions des uns et des autres. On a été inscrit à la signature. Vous avez constaté que par avant, c'était deux mouvements, deux coordinations, la plateforme et la SEMA. Lors de la mise en place de la commission de suivi, ça a trouvé qu'on avait partagé les commissions, la coordination a eu 10, la plateforme a eu 10.
Vous représentez la ville de Gao?
C'est la coordination régionale de la Campus 15 à Gao.
Quelles sont vos revendications en ce moment?
Nous réclamons notre...
Vous voulez être inclus, en fait?
Dans le comité, dans les commissions de suivi.
Qu'est-ce qui explique, en fait, qu'on vous ait exclu des discussions?
Notre exclusion. Les commissions de suivi, on n'est pas là-dedans. La Campus 15 n'a pas été prise en compte.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour une sortie de crise?
Il faut qu'on soit impliqué comme la SEMA et la plateforme dans les commissions. La marche, on l'avait fait pour prouver à la nation entière que la ville de Gao actuellement a été exclue de tout mouvement dans les accords. On est sorti pour manifester notre mécontentement.
Madame Fatih Soumeilou, coordonnatrice du mouvement Campus 15.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, polémique autour de la promesse du président Joseph Kabila de respecter la Constitution et d'aller aux élections. Monsieur Kabila avait, le week-end dernier, indiqué qu'il n'avait demandé à personne de modifier la Constitution. Dossier d'Eddie Isango.
L'opposition a reçu le message avec beaucoup de doutes. Pour elle, Joseph Kabila n'a pas été suffisamment clair quant au troisième mandat qui limite la Constitution. La position de l'opposition est donnée ici par les députés et chefs du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste, Frank Diongo.
Lorsqu'il dit qu'il est prêt à aller aux élections ou il aime les élections, pourrez-vous comprendre qu'il manipule la CENI, la Commission nationale des élections, parce que, un, les élections provinciales qui sont prévues pour le 25 de ce mois, il ne reste que 19 jours. La CENI n'est pas capable de dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'élection cette année. Il a dit seulement on a décalé la campagne électorale, mais il ne donne pas la date de campagne électorale. À Kingakati, ils n'ont rien dit sur le calendrier des élections. L'argent des élections, le budget de la CENI, dans les rapports de la CENI, c'est 528 millions de dollars pour les élections provinciales. À la fin du mois de mai, le président Kabila et son gouvernement n'ont décaissé que 8%. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner l'argent d'organiser les élections parce qu'ils ne veulent pas des élections. Clair? Donc, ils ne veulent pas des élections, c'est un mensonge d'État. Les Congolais ne croient pas, eux-mêmes ne croient pas à cela.
Pour la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila est suffisamment clair. C'est le point de vue du secrétaire exécutif national du parti PPRD au pouvoir, Gaston Moussa-Mémé.
Je dois vous avouer que la personne qui vous parle, élue du PPRD à deux reprises, n'acceptera pas un troisième mandat pour Joseph Kabila. Je dois vous avouer que le PPRD de son parti n'accepte pas le troisième mandat pour lui. Je dois vous avouer que Joseph Kabila lui-même n'a jamais préconisé un troisième mandat pour lui, parce que tout cela, ça serait la violation de la Constitution. Ce qui est vrai, vous devez le savoir, c'est que nous avons beaucoup de problèmes pour l'organisation des élections étant voulu. Voilà pourquoi vous demandez aux uns aux autres de nous mettre sur la table des négociations.
La campagne électorale prévue pour les élections provinciales n'a pas été lancée comme prévu.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
La crise migratoire en Europe, nous nous rendons en Italie où les migrants en provenance d'Afrique continuent d'affluer. La traversée de la Méditerranée est extrêmement dangereuse et les victimes tous les jours plus nombreuses. Rien qu'hier, un navire de guerre norvégien a sauvé 239 migrants qui ont été acheminés au port de Messine en Sicile. Joint sur place par Morgane Guériec, notre envoyé spécial Nicolas Pinault.
Ces migrants, en majorité des hommes en provenance d'Érythrée, étaient tous bien portants. Ils ont notamment été pris en charge par la Croix-Rouge italienne. Le processus est toujours le même. Il y a un espèce d'examen médical à la descente du bateau. Et c'est le début pour eux de leur long périple, puisque beaucoup ne vont pas rester longtemps en Sicile, ni même en Italie. Beaucoup espèrent aller dans les pays plus au nord de l'Europe, notamment en Allemagne ou encore en Suède.
La situation sécuritaire et humanitaire s'est-elle améliorée ?
Alors écoutez, on peut dire que pour le moment, plus de 2500 personnes sont mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée à partir des côtes africaines. 2500 n'est qu'une estimation, puisqu'évidemment on n'a pas les chiffres exacts. Il faut dire que la traversée est un tout petit peu plus sûre, mais vraiment, prenons des grosses précautions. C'est-à-dire que maintenant, les bateaux européens vont quasiment chercher les migrants tout près des côtes libyennes. C'est d'ailleurs un des arguments pour les passeurs qui explique que la traversée maintenant est quasiment très sûre pour les migrants, puisqu'ils vont être de toute façon secourus par les bateaux européens. Ce qui est faux, évidemment, comme le répétait le commandant du bateau norvégien, la traversée est dangereuse et les Européens, les militaires qui patrouillent dans la zone ne pourront jamais sauver tout le monde. Concernant les conditions, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration, une meilleure organisation du côté des Européens, puisque la plupart des migrants qui arrivent sont entre guillemets triés et ils peuvent après continuer leur périple pour ceux qui souhaitent demander le statut de réfugié notamment. Donc les choses se sont un peu améliorées, mais ça reste quand même une traversée mortelle et un quotidien très dangereux.
Nicolas Pinault, vous avez également rencontré des migrants à Rome. Qu'avez-vous constaté là-bas ?
90% ont pris un bateau depuis la Libye, 10% depuis l'Égypte. La plupart sont des migrants africains. La grande majorité sont des Érythréens ou des Somaliens. Pour les personnes que j'ai rencontrées à Rome, notamment des Maliens, des Gambiens, mais également, je l'ai dit, des Érythréens, la plupart ont cette idée que l'Italie n'est qu'une espèce d'étape dans leur périple européen. La plupart veulent gagner les pays nordiques. Beaucoup d'entre eux racontent la difficulté, évidemment. Pour certains, cela fait plus de 2 ans qu'ils sont sur la route. Ils racontent la traversée très difficile, évidemment, où on ne sait jamais si on va réussir à aller de l'autre côté. Mais tous ont un espoir d'arriver au bout de leur voyage et tous m'ont répété la même chose. Il faut mieux essayer de mourir en arrivant en Europe que de rester à galérer ou à mourir avec les guerres en Afrique.
Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à Messine, en Sicile. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.